Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la suite du roman de Joseph Delteil sur le fleuve Amour. Nicolas considérait avec une rare minutie le jeu cursif de la plume d'oie sur la feuille d'ouliapine. Ses yeux d'un bleu cruel s'irisèrent de jouissance lactée. En silence, il se pencha sur Boris et l'embrassa sur l'oreille. Boris plia le papier, le plaça soigneusement dans la poche intérieure de son veston. C'était un veston en drap d'Australie confectionné à Birmingham par des vierges du Yorkshire et transporté au magasin Smithland & Co. Limited de Shanghai par un cargo de la Orient Liverpool Line à équipage cafre. Il sortit du lupanar. La rue Sun Yat-sen avançait par contraction à la façon des chenilles. Sur les façades des maisons en terre étaient plaquées des images de Bouddha et des statuettes de porcelaine androgyne ou monstrueuse. Parfois, sur le seuil d'une porte, un mince jeune homme chinois, accroupi et la tête nue, triait des lentilles sur son ventre avec des doigts d'or. Devant une maison de justice, un grand mandchou à moustache distribuait des coups de bambou à une douzaine de malfaiteurs muets, offrant en holocauste leurs épaules rondes, jaunes et molles comme des paires de flancs. Tout en marchant, Boris dévisageait les passants et scrutait les poitrines. Le bolchevisme avait trouvé en Chine un terrain d'élection. Des émissaires de Moscou avaient recruté dans ce peuple amoureux de toute théorie logique une vaste armée d'adhérents. Pour diriger, entraîner et, au besoin, soulever cette armée, Moscou entretenait de ses roubles dans chaque ville une sorte de garde rouge formée de célestes choisis. C'étaient les cadres de la Révolution. Ces hommes, reconnaissables au lotus de soie rouge qui fleurissait leur cœur, rôdaient tout le jour sur les places publiques, indolents et blêmes, le visage gras et les mains molles à la disposition des bolcheviques. C'est à la recherche de ces soldats occultes qu'était parti Boris. Souvent, il croisait un Européen. Belle barbe noire posée sur un veston de toile blanche formant pistil, ou bien quelque hindou au sein en sein doux. Des colporteurs suaves passaient, poussant devant eux des palanquins en bois de rose à roues de caoutchouc surchargées de camomille, de thé, de savon, de pavot et de tabac. Un matelot japonais malade, accoutré à l'européenne, se dandinait avec précaution le long des murs comme un chat qui craint de salir ses pattes. Des demoiselles vierges à perpétuité se tenaient debout sous des acacias, peintes comme d'étoiles, prodigues de caresses sages, superficielles et repérables. Autour d'elles flânaient deux Chinois mornes, costumés de flanelle jaune, le cœur orné du lotus rouge. Boris les regarda avec insistance, puis toussa à trois reprises en levant l'index dans la direction de Moscou. Les deux hommes s'approchèrent à la queue leu-leu. Il leur montra l'ordre d'exécution. Et aussitôt, rajustant leurs pantoufles en curant leurs ongles, ils le suivirent. Dans la rue Foucault, Boris racola deux autres gardes rouges. Les quatre hommes se mirent en rang et le cortège se dirigea vers la caserne. Cette caserne occulte était une boutique saumâtre où une vieille chinoise bossue vendait des anguilles et des grenouilles. La vieille était étendue de son long contre la porte et sentait l'alcool de riz et le poisson avarié. L'un des hommes entra en lui passant sur le corps. Les grenouilles surtout étaient esthétiques. Il y en avait de vives dans des bocaux de verre vert, quadruples et les yeux ronds. Les unes jaunes avec des insignes noirs sur les cuisses, les autres bleues comme des robes de jeunes filles. Il y en avait d'écorchées, la chair fine et rose sur fond d'algues. Il y en avait encore dans des vases de porcelaine, les unes grosses et ventrues avec des prunelles d'or, d'autres minces et bleues comme des garçons poitrinaires, d'autres à cuisses poilues comme des matrones. L'homme sortit, portant quatre fusils provenant des arsenaux japonais. Et l'escouade, l'arme à la bretelle, suivit Boris. Dans les rues, les indigènes habitués se montraient du doigt en silence les quatre fusils. Des enfants sur le passage du détachement criaient en riant « Moscou !» Le lupanar était toujours grand ouvert. Le gérant, vieux chinois à lunettes et à barbiche, se détourna en tout sautant pour avoir l'air de n'avoir rien vu. Les hommes mettaient baïonnette au canon. Le consul américain, affalé dans son fauteuil, se livrait aux délices de l'asthme. L'un des hommes se détacha, posa sa main fragile, parée d'anneaux de jade sur la large épaule de l'anglo-saxon, et bredouilla sur un ton délicat. « Au nom de la République russe des Soviets, William Simpson, je vous arrête !» Le consul se dressa d'un coup. Il parut plus grand que les quatre Chinois mis bout à bout. Il gueulait, les yeux sanguins. « Quoi ? Quoi ?» Déjà de sa belle main slave, Boris dépliait l'ordre d'exécution. Nicolas, immobile, regardait Ludmila pâlir de cette pâleur sensuelle qui envahit les joues et les poignets des femmes au moment où la psychologie se combine avec la physiologie dans des proportions déterminées par les médecins et les poètes. Boris déclamait. Il est ordonné à Boris Petralovski, adjudant-major aux armées de Sibérie, de procéder à l'exécution de William Simpson. Tandis que les soldats entraînaient William Simpson, Ludmila restait là, à Langui, ou évanouie dans le sofa de plumes de héron. Soudain, le brusque sang qui gronda autrefois en elle dans la nasse aux poissons et pendant l'escarmouche de Krakowitsa accourut dans ses veines. Elle se leva, marcha en courroux vers Nicolas. Ils étaient seuls dans la salle luxurieuse. Debout devant lui, elle regarda le jeune homme. Il lui parut fragile et beau. Le sang barbare s'enfuit de ses veines, où affluait maintenant celui qu'elle gâta le long de l'amour, d'eau sensuelle et de maléfice. Ses tempes pâlirent. Une envie lui vint à cette femme de caresser pendant l'éternité ce corps de jeune homme semblable à une pelote de soie ou à une tige de hyacinthe. Nicolas n'avait pas bougé. Il cherchait à discerner dans la main charnue de Ludmila l'empreinte laissée par la carabine qu'elle mania depuis le lac Baïkal jusqu'à Nikolaïevsk. Sur ce front d'une pâleur polaire, il imaginait la trace du casque mongol. Et dans son âme, il démêla mieux qu'elle peut-être ce mélange de plaisir mortel et d'héroïque mélancolie dont ne peuvent plus ne pas se parer les femmes depuis qu'elles ont lu du sang, de la volupté et de la mort. Nicolas se leva avec mollesse et offrit à Ludmila son propre siège. Mais de nouveau, elle se sentit envahir par un sang irrité. Ses tempes devinrent dures comme l'ivoire des mammouths fossiles. Sans un mot, Nicolas lui prit la main. « Ne me touchez pas » cria-t-elle, en reculant d'une façon tragique. Puis elle murmura à voix basse pour elle-même « Assassin !» Nicolas s'accroupit sur une natte de paille de riz blanchie à la poudre de riz. Il tira de sa poche son étui à cigarette, en prit une à l'effigie du Mikado, l'alluma, et se mit à regarder la fumée en robe bleue montée vers un plafond peint d'étangs et de fleuves jaunes. Sa tête, vaguement baudelairienne, s'exhalait de son corps comme une fleur hors d'un vase tranquille. Ses joues arrondies pour l'expiration étaient parfaites, comme celles des femmes, et ses yeux étaient la couleur de la fumée. Ludmila, les yeux fixés sur lui, ne put s'empêcher de répéter, en y ajoutant une épithète qui lui décolora les lèvres au passage. « Oh, un bel assassin !» De nouveau, elle s'affadit. Les veines pleines d'un sang composé de globules rouges languides et forts comme de tendres athlètes. Elle s'approcha de Nicolas, s'assit à côté de lui sur la natte de riz et sur un ton dont il sentit bien que le courroux était fin et désirait le paraître, elle demanda « Et maintenant, à quand mon tour ? Car je pense bien que je suis aussi votre prisonnière. » « Il n'y a de prisonnier ici que moi, Ludmila. » Elle sourit en battant les mains. Par moments, elle était saisie d'une exaltation anormale. Elle se rappela un personnage de Nicolas Gogol qui débite à une rose un madrigal analogue. Elle roula tout à fait sur la natte et les deux mains croisées derrière la nuque. En ce cas, dit-elle, je puis ordonner à mon prisonnier de me dire ce qu'on compte faire de William Simpson. Oh, je crains que William n'ait couru la colère de Trotsky, répondit Nicolas sur un ton de raillerie identique. Il ajouta, il est peu poétique que vous preniez intérêt à ce consul apoplectique modelé dans un pur lard. Je pense que vous serez bientôt fixé sur son sort.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Sur le fleuve Amour, Joseph Delteille. Nicolas avait jeté sa cigarette dans un cendrier de lac blême, peint de cigognes à col d'azur et de roseaux fragiles. Et regardant Ludmila avec ses yeux calmes parcourus comme des lagunes de bancs de sable, il murmura d'une voix si métaphysique « Il peut mourir puisqu'il vous a aimé. » Il se fit un silence pareil à une feuille de papier blanc. Mais Ludmila le troua aussitôt avec sa langue pointue. En ricanant, elle demanda « Voulez-vous, monsieur mon prisonnier, m'offrir une cigarette ?» Il s'excusa et lui présenta l'étui. Leurs deux gestes se rapprochèrent comme deux oiseaux à long bec. Ludmila aspirait comme un troupier. Elle s'ingéniait à modeler avec ses lèvres des grimaces à tendances esthétiques. La peau de son visage s'assombrissait de minute en minute. Nicolas sonna. Un groom apparut. C'était un enfant anglais d'un rose bonbon, la bouche molle et les yeux mondiaux. Il parlait le russe avec un accent de Brighton et portait un uniforme de cachemire. Par la porte qu'il avait laissée ouverte, Ludmila aperçut deux bolchevistes de garde, apposés par Boris, l'arme au pied, le lotus de soie rouge cousu sur le cœur. Ils flageolaient sur leurs jambes de céleste et bâillaient minutieusement en se curant les narines avec leurs ongles malsains. Le groom fit une belle révérence, 18e siècle français, sortit et revint portant un plateau de forme bouddhique sur lequel trônait entre deux verres malingres comme des pattes une bouteille semblable à un ventre. Ludmila buvait la liqueur émeraude avec une ostentation de mauvaise foi. Entre deux gorgées, elle dévisageait le groom avec insistance et à mesure, ses joues se gonflaient de langueur. Elle ôta une bague d'or ornée d'une perle et la jeta à l'enfant anglais qui se retira en reculons en suçant la perle avec sa bouche désirable. Soudain, elle se mit à rire intarissablement. Ses oreilles devinrent invisiblement roses comme l'intérieur des radis. Ses yeux humides parurent avoir été plongés dans un océan, puis elle laissa choir le verre malingre, s'allongea sur un lit de coussin âpre en poils de chamelle et s'y caressa l'imagination. Par intervalles, elle bredouillait des syllabes qui, combinées d'une façon plus logique, eussent peut-être fourni le nom de William Simpson. Brusquement, elle se dressa et à brûle-pourpoint. « Mais pourquoi voulez-vous donc tuer ce pauvre William ?»« Parce que je vous aime. » Il s'approcha d'elle, lui tendit ses poignets fiévreux. Lui aussi maintenant était ému à cause du cœur ou à cause de l'alcool. Il sentit l'instant devenir plus pathétique qu'une agonie de gazelle. Des confidences en foule venaient danser pieds nus dans sa gorge. « Je vous ai aimé, Ludmila, dès le jour où je vous ai vu dans une plaine de Sibérie qui avait la forme d'un cœur, chargeant à la tête d'une compagnie de femmes ostiaques. » Vous teniez de la main gauche des rênes de fourrure et vous brandissiez une carabine rose entre les oreilles de votre cheval Isabelle. Autour de vous, vos femmes en tumulte éperonnaient leurs cavales vierges en proférant des blasphèmes sensuels. Mais vous, vous étiez silencieuse comme les femmes du pôle. Mes cavaliers, pris de panique, s'enfuyaient d'eux-mêmes en traçant des signes de croix sur le poitrail de leurs chevaux. Et mon frère, Boris, pâle et jetant son sabre dans la neige, murmura à mon oreille « Elle est trop belle !» Chaque soir, sous les tentes, tous les hommes songeaient à vous. Les Kirghiz, accroupis en rond autour de leur bivouac, oubliaient de nourrir leur feu parce qu'ils pensaient à vous. Un colonel tartare se pendit à un bambou à cause de son amour. De beaux jeunes hommes samoyèdes, chaussés de bottes d'hermine, se noyèrent dans l'aléna parce qu'ils vous avaient vu. Et la nuit, si nous nous arrêtions au bord du fleuve Amour, nous entendions au-dessus de l'eau passionnée gémir nos chevaux amoureux. Des hommes de Tashkent taillaient dans le buis des statuettes à votre image. Un pope baisait jour et nuit une icône qui vous ressemblait. Un sabre de Cosaque tomba dans une mare congelée et périt dans la glace de vous avoir blessé. Tard dans la nuit, on entendait pleurer à travers la toile des tentes les hommes sentimentaux de la mer Blanche et de la Transcaucasie. Vous avez ensorcelé toute l'armée. et c'est peut-être pour vous voir, Ludmila, pour vous avoir qu'elle combattit si âprement et qu'elle jeta Semenov à la mer. Peut-être le soir où vous quittâtes Nikolaïevsk, vîtes-vous de votre canot déboucher de la rue Boukharine à la tête d'un peloton de chasseurs roses, deux jeunes hommes pâles qui portaient chacun une fleur à la main, c'était Boris et moi. Vous gravîtes l'échelle du steamer Arthur VI. Vous vous accoudâtes à la lisse. Et longtemps, jusqu'à ce que l'horizon eût avalé le navire, une lorgnette à la main, nous vous regardâmes. Puis ce jour, nous n'avons jamais cessé de vous voir. Pour vous, Boris et moi, nous avons déserté. Un soir amer, nous avons déchiré nos galons et nos convictions sociales, et nous voici. Et que compte un consul américain dans un désir comme le nôtre ? Venez, Ludmila. Il se leva, la prit par la main. Elle était molle et résignée. Ses paupières s'abaissèrent sur ses prunelles. Et l'on eût dit qu'elles étaient assez larges pour éclipser toute la terre. Il l'amena à la fenêtre losangée de dragon. Le crépuscule jaunissait Shanghai de ce jaune atroce dont les géographes peignent la carte de la Chine comme si elle avait la nausée. Devant la fenêtre, sur une petite place, quatre hommes médiocres mettaient en joue un corpulent consul américain. Boris levait la main droite vers les fusils. Une quadruple détonation. William tomba la face contre terre. Ludmila tomba un peu évanouie, la face contre la poitrine de Nicolas, et Nicolas lui murmurait à l'oreille d'une voix sans limite « Je vous aime, comme toute une armée. » Horticulture et sensualité. Tiens, voilà le petit télégraphiste bleu. Il a pris de l'embonpoint, un embonpoint pâle et suspect. Depuis le jour où, sur le quai de Nikolaïevsk, Semenov respira dans sa nuque une odeur de chair fraîche. Il porte le même costume, un peu étroit, mais si sentimental des télégraphistes. Sa face, bouffie et blanche, décèle des stigmates de tuberculose. Voici l'histoire, peut-être incomplète, qu'il nous conte. Entre parenthèses, je parierai la huitième merveille du monde que ce tendre drôle a couché avec Ludmila Androff. Semenov fut de tout temps un homme de peu de vertu. Mais après sa défaite, il devint ignoble. Au cours de la traversée de Nikolaïevsk à Shanghai, il parqua dans les entrepôts et les cales les troupes glaciales et les soldats néo-russes, et il fit du pont de l'Arthur VI un séduisant lieu d'orgie. Toujours entouré par ses Mongols, il passait son temps à boire des liqueurs anglaises ou bien assis dans un fauteuil devant l'océan, à jeter de ses propres mains des petits enfants aux requins. Non dépourvu de lettres d'ailleurs, beau et imaginaire, il imprimait à toutes ses actions un incontestable cachet d'originalité. Un romancier s'éprendrait facilement de lui. La réciproque serait d'ailleurs vraie. Mon tour arriva d'aller jouer avec les requins. Ici, le télégraphiste toussa. Ce fut Ludmila Androff qui me sauva. Elle parcourait parfois le pont d'un air triste, le front chargé de souvenirs. Elle me prit ostensiblement la main et dit à Semenov « Il est à moi !» Je la suivis et j'entrai à son service. Elle a voulu que je garde mon habit protocolaire. Je suis heureux. Dans sa maison, je lui prépare les fards et je lui manipule les linges. J'achète les gâteaux de pistache, le thé et les fleurs. Voilà mon rôle. Il toussa encore. Ils étaient réunis, Ludmila, le télégraphiste bleu, Boris et Nicolas, devant le palais d'Onyx. À Shanghai, tous les bordels s'appelaient des palais. Le chinois a deux formes de passion, l'horticulture et la sensualité. Il cultive à Sungam des roses plus belles que celles d'Ispahan, et il a des tulipes plus larges qu'en Hollande. Le collège horticole de Fantangu abrite 40 000 élèves, 40 000 chinoisons délicats et tangents qui étudient la chimie, la botanique et la science du cœur et se lavent les mains 12 fois par jour pour les rendre aptes à la manipulation des pistils. Et à Shanghai, il y a des bordels solennels et chics, bâtis par des architectes suaves, loin de mire et d'imagination. Ce sont des constructions modernes. Acier, verre, stuc, dissolution de dorure. De style à peu près comparable à celui des monuments occidentaux consacrés à l'exposition de la peinture et de la gloire, petit palais ou panthéon. Shanghai, en somme, a poussé jusqu'au grandiose le perfectionnement des curiosités et des indécences qui sont en miniature l'apanage des maisons spéciales de Paris et de Moscou. L'érotisme est devenu un art. Un Européen en voyage qui omettrait de visiter un des grands bordels de Shanghai commettrait envers la Chine une offense aussi grave que celle d'un Yankee qui oublierait de remonter les Champs-Élysées à Paris. Ce manque de tact, point ne l'aurais-je. Et j'emmène incontinent mes personnages au palais d'Onyx. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Joseph Delteille sur le fleuve Amour que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.